La séance est ouverte depuis le théâtre du Vieux Colombier avec les comédiens français Michel Favori, Bruno Raffaelli, Stéphane Varupen, Benjamin Laverne, Sébastien Poudroux, Christophe Montenez. Le débat de décembre 1931 sur les quotas de travailleurs étrangers en France. Pendant la Grande Guerre, la France avait fait appel à des centaines de milliers de travailleurs coloniaux, étrangers, dont bon nombre de Chinois. Dans les années 1920, les nécessités économiques et démographiques font que l'immigration a été longtemps la bienvenue. Le patronat industriel fonde à cet effet une Société Générale d'Immigration en 1919. Les agriculteurs, les viticulteurs de leur côté, se félicitent de la venue de saisonniers. La France devient le pays du monde où le pourcentage d'étrangers est le plus important, avant les États-Unis. Une première loi en 1926 tente bien d'assurer un meilleur contrôle des personnes qui entrent. Mais c'est le début de la grande crise économique qui provoque une première réaction. La presse d'extrême droite, au premier rang de laquelle l'ami du peuple, lance une campagne. Les socialistes, sensibles aux réactions de leur électorat ouvrier, proposent dans un premier temps de fixer un plafond de 10% à ne pas dépasser. Adolphe Landry, le ministre du Travail du gouvernement Laval, est un démographe qui sait que notre pyramide des âges est creusée par les effets de la guerre. Le texte qu'il met aux voix est donc élastique. Les quotas seront du ressort des partenaires sociaux. Il incombera aux syndicats patronaux et ouvriers de les fixer région par région. Seuls les communistes vont s'opposer vigoureusement. Il se trouve qu'ils sont représentés à la tribune par Jacques Doriot, maire de Saint-Denis, homme aux sincérités successives, qui finira dans l'autre camp.
France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie Française, Jean Lebrun.
La parole est à Monsieur Pierre Tétinger, député de la Seine.
De tout temps, il y a eu des chômeurs en France. En temps ordinaire, il doit y avoir dans ce pays de 225 000 à 250 000 chômeurs. En 1926, ce chiffre a même été porté à 537 000. En ce moment, la proportion est plus élevée. Vous sentez donc combien devient angoissante l'extension lente et continuelle du chômage. La question du chômage ne préoccupe pas seulement telle ou telle partie. Nous avons tous ici un égal désir d'y porter remède. Monsieur le ministre, vous avez à envisager une action vaste concernant la protection du travailleur français. Celui-ci a des devoirs, mais il a également des droits. Le premier est d'avoir du pain, du travail. L'un est la conséquence de l'autre, et nous ne demandons pas mieux que de voir les étrangers en trouver aussi chez nous. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent fermer nos frontières. Nous ne voulons pas rendre la France antipathique au monde. Mais il faut d'abord penser aux nôtres. De même, on aime sa maison plus que les autres maisons, son village plus que les autres villages, son pays plus que les autres pays. Je veux avoir des frères à travers l'humanité, mais mon frère le plus immédiat est mon frère français.
Votre frère, ce sont les capitalistes.
À ce sujet, je me bornerai à faire certaines comparaisons. En ce qui concerne les employés de l'hôtellerie, par exemple, nous assistons à une véritable invasion étrangère. Les grands hôtels de Nice emploient 60, 70 et même 90% d'étrangers.
Oui. Voulez-vous me permettre une indication ?
Très volontiers, Monsieur Herriot.
Aux dernières statistiques, à Lyon, il y avait 5 000 chômeurs et 20 000 travailleurs étrangers.
Au Théâtre National de l'Opéra, la semaine dernière, le programme comportait 3 spectacles, Rigoletto, Othello et Tannhäuser. Les 2 premiers ont été donnés avec 60% et le 3e avec 80% d'artistes étrangers.
Voilà.
N'avons-nous pas, en France, assez d'artistes, de chanteurs de toutes catégories.
Si.
Messieurs, il n'y a pas que l'opéra. Les artistes lyriques, dramatiques ou musiciens, dont 2000 sont en chômage, ne peuvent trouver de travail, tandis que des centaines de musiciens étrangers gagnent leur vie en France.
Oh voilà, il faut donc agir à cet égard. Je me tourne vers monsieur le ministre du Travail et sans aucun esprit de xénophobie, je lui dis « Pensez d'abord aux chômeurs français avant d'autoriser de nouvelles entrées d'étrangers en France !»
Ce sont les patrons français qui engagent ces étrangers.
C'est faux.
Messieurs, je vous prie instamment de garder le silence et de reprendre le débat.
Je crois que personne ne peut s'insurger contre la thèse que je défends. Je ne demande pas qu'on fasse repasser la frontière aux étrangers qui se trouvent chez nous et ont des contrats de travail réguliers. Je voudrais qu'on ferme nos frontières aux travailleurs étrangers quand, dans certaines branches de notre industrie, il n'y a pas de travail pour les Français. Pensez d'abord aux travailleurs français et à leurs familles. Ce n'est pas une question politique. C'est une question de cœur.
Bravo.
La parole est à monsieur Lionel de Taste, député de la Seine.
Il existe dans ce pays un grand nombre d'étrangers qui sont entrés par des voies interdites.
Ouais.
Ils ont passé la frontière comme touristes. Ils sont entrés comme cultivateurs alors qu'ils travaillent dans les usines. Ils ne possèdent pas de carte d'identité et leur séjour sur notre territoire est irrégulier. Vis-à-vis de ceux-là, il est possible d'agir. Quand on les découvre, on peut les refouler immédiatement à la frontière.
Une expulsion en masse des étrangers ne serait guère dans nos traditions françaises. Elle serait encore moins digne de nos inspirations démocratiques.
Il y a une difficulté. C'est que le refoulement coûte cher. Car il faut accompagner les refoulés jusqu'à la frontière, si l'on ne veut pas qu'à la première gare, ils descendent et reprennent le train pour regagner le point de départ. Il serait donc urgent d'ouvrir des crédits importants pour permettre aux directeurs de la Sûreté Générale et aux préfets dans leur département de prendre des mesures de refoulement.
La parole est à monsieur Roger Salingros, député du Nord.
Merci, monsieur le Président. Permettez-moi une parenthèse. Loin de nous l'idée de considérer les Nord-Africains comme je ne sais quel matériel humain. Nous voyons en eux non des Français diminués, mais des hommes libres. Cependant, à ceux d'entre eux qui chôment, ne pourriez-vous offrir, s'ils veulent en profiter, le rapatriement gratuit ? Refoulement à l'étranger ? Non point. Dans le cadre de la nation, nivellement de la main-d'œuvre. Car la preuve est faite, n'est-il pas vrai, que de grands travaux s'imposent dans notre Afrique du Nord ?
La parole est au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, monsieur Adolphe Landry.
Messieurs, quand il s'agit de légiférer, il faut prendre une vue un peu plus haute des choses. Quelle est l'importance de la concurrence que la main-d'œuvre étrangère fait à la main-d'œuvre française ? Le recensement auquel il a été procédé au mois de mars de cette année a indiqué qu'il y avait en France 2 891 000 étrangers, parmi lesquels 1 266 000 salariés. Ce chiffre est considérable. Il dépasse de plusieurs centaines de mille le chiffre que l'on enregistrait en 1911. Mais ces travailleurs étrangers qui sont venus chez nous, nous les avons accueillis, nous les avons appelés. Pour une grande partie d'entre eux, nous les avons même recrutés.
Pas tous, Landry, pas tous.
S'il vous plaît. De ces travailleurs étrangers, messieurs, nous avions un très grand besoin. Ici, je voudrais demander à chacun d'entre vous de faire un effort d'imagination, d'essayer de concevoir ce qu'eût été la production, la vie économique de la France depuis la guerre, sans ces travailleurs étrangers qui, en si grand nombre, ont passé nos frontières pour venir s'occuper chez nous. Comment se serait faite la reconstruction des régions dévastées ? Comment aurait pu marcher notre industrie minière ? Qu'est-ce que notre agriculture serait devenue ? Ce sont là des questions qu'il est bon que chacun se pose. Nous avions hier un très grand besoin de la main-d'œuvre étrangère. Il y a des professions dont les travailleurs français ne veulent pas. Des professions très importantes où la main-d'œuvre française ne se porte pas en quantité suffisante. Ajouterai-je encore que les étrangers que nous avons chez nous y sont, pour la plupart, depuis un temps long. Il en est qui sont établis chez nous, qui y ont acquis quelques biens, qui y ont fondé une famille. Dans nos mairies, on voit quelquefois arriver le travailleur étranger portant un enfant sur les bras. Il ne connaît pas suffisamment notre langue pour pouvoir se bien expliquer, mais il sait faire comprendre que cet enfant est français. Il est français en vertu de l'article 3 de la loi du 10 août 1927 qui permet aux étrangers de faire de leurs enfants, dès la minorité, des Français. Il faut ne pas perdre tout ceci de vue.
Ouais. Il est tout de même douloureux de voir de vieux ouvriers occupés depuis 15 ou 20 ans dans une usine, habitant nos communes où ils ont élevé leur famille, où ils ont leur maison, mis subitement au chômage et qui regardent le matin passer des ouvriers étrangers se rendant à l'usine qu'ils ont été eux-mêmes obligés de déserter.
Ce sont les employeurs qui mettent leurs compatriotes en chômage au moment où ils pourraient les employer en acceptant des ouvriers étrangers. Ce n'est donc pas à l'ouvrier étranger, mais à l'employeur que vous devez faire porter la responsabilité du fait dont vous vous plaignez.
La parole est à Monsieur Jacques Doriot, député de la Seine.
Certains nationalistes ont déjà reconduit par l'esprit à la frontière tous les travailleurs étrangers et liquidé ainsi le chômage. Le Parti socialiste lui-même vient de déposer une proposition de loi tendant à limiter l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Cependant, il est déjà clair pour tout le monde que le départ de tous les étrangers ne liquiderait pas complètement le chômage.
Hey, bravo.
Merci. D'ailleurs, tous ceux qui veulent chasser les travailleurs étrangers sont parfaitement éclairés sur le fond du problème. Ce n'est pas cela qu'ils cherchent. Ils savent fort bien que les travailleurs étrangers ne sont pour rien dans le développement de la crise. Ce qu'ils veulent, c'est détourner l'attention des travailleurs français sur les responsabilités de la crise en développant leur hostilité contre leurs frères de misère des autres pays. On pense que pendant ce temps, ils ne lutteront pas contre le capitalisme. C'est là le but que l'on veut atteindre. Il me faut reprendre à ce propos le mot de Jaurès. Pour nous, le mot « étranger » n'a pas de sens. Il en a encore moins lorsqu'il s'agit des exploités de notre propre capitalisme.
Ouais.
Les chômeurs français, comme les chômeurs étrangers, sont tous des chômeurs du capitalisme français et du capitalisme international. Ils sont victimes au même titre de la crise du capitalisme qui meurtrit la classe ouvrière internationale. Merci. C'est en vertu de ce principe que nous demandons pour les travailleurs étrangers les mêmes droits que pour les travailleurs français. Même droit en ce qui concerne les allocations et suppression de tout règlement particulier en ce qui concerne leur inscription. Il est exact que, dans certaines entreprises, le travailleur étranger est souvent moins payé que le travailleur français. J'irai même plus loin. Il est exact qu'il accepte quelquefois de travailler à un salaire moindre que celui qu'accepterait le travailleur français. Mais cela tient à cette cause particulière que le travailleur étranger est ici soumis à des conditions extrêmement dures. Il n'a pas sa liberté d'action. Il est soumis à une terreur permanente. Il est menacé à tout instant d'être envoyé dans n'importe quelle région de France, loin de sa famille, par le service des étrangers. Il est menacé d'expulsion s'il bouge. Eh oui, comment veut-on que dans ces conditions, il ne soit pas tenté d'accepter n'importe quel salaire ?
C'est une honte !
Exactement. C'est pourquoi nous réclamons pour les travailleurs étrangers les mêmes droits syndicaux, les mêmes droits politiques que pour les travailleurs français. C'est l'intérêt véritable du prolétariat français de réclamer l'égalité absolue des droits entre lui et la main-d'œuvre étrangère et coloniale. C'est la seule façon d'éviter une concurrence qu'un patronat à l'affût de tout pour diviser les ouvriers fait naître et entretient savamment.
La parole est à Monsieur Georges Beaugrand, député de la Seine.
Si réellement le gouvernement et tous ceux qui se dressent contre les ouvriers étrangers avaient voulu agir contre le chômage et donner maintenant du pain aux chômeurs, il y avait quelque chose de très simple à faire. Vous avez donné 100 millions pour alimenter des fonds de chômage. Mais combien avez-vous donné et prêté de milliards aux pays fascistes polonais, roumains, yougoslaves et à la Hongrie ? Combien donnez-vous encore cette année au budget de la guerre ? Combien avez-vous donné de centaines de millions pour renflouer vos banques qui sautent les unes après les autres ? Avouez, messieurs, que si vous aviez aujourd'hui ces milliards, vous seriez mieux placés pour soulager la misère qui résulte du chômage créé par le capitalisme. Eh oui !
Monsieur Henri Guernu, député de l'Aisne, vous avez la parole.
Merci. Messieurs, je voudrais au gouvernement, à la commission et à la Chambre adresser une prière. Vous allez, messieurs, limiter à une certaine proportion le nombre des étrangers occupés dans notre pays. J'y consens. Le pire effet de la précarité n'est pas de réduire notre pouvoir d'acheter, c'est de restreindre notre faculté de donner. C'est de nous condamner à nous replier sur nous, à ne penser qu'à nous et à ouvrir moins large l'accès de notre cœur. Nous serons donc contraints d'admettre chez nous moins d'étrangers. Peut-être même, dans certains cas, d'en reconduire quelques-uns chez eux. Dans cette nécessité, je voudrais, monsieur le ministre, vous demander une attention spéciale, des égards privilégiés, pour une catégorie de ces étrangers la plus intéressante, sans doute, celle des réfugiés politiques ou, comme on les appelle, des proscrits. Quand je parle des proscrits, je parle de tous les proscrits. De quelque côté qu'ils viennent, proscrits par la droite ou proscrits par la gauche, chassés par les provocations ou par les représailles, toutes victimes égales, à mes yeux, de l'égale injustice qui naît de toutes les dictatures. Je les connais un peu, ces proscrits. Je suis un des Français à qui, le plus souvent, ils font leur première visite. Plus on les reçoit, plus on les plaint. Plus on les connaît, plus on les estime. Émigrer ou évacuer, échapper des luttes civiles ou de la répression, ils arrivent déguenillés, défigurés, lamentables, portant sur eux les stigmates de ce qu'ils ont souffert, ayant laissé à chaque station de leur calvaire beaucoup de leur force et quelquefois un peu de leur sang. Non. Non. Il est impossible de ne pas les plaindre. Vous me direz que dans bien des cas, ils auraient pu éviter ces extrémités de péril, c'est vrai. Ils auraient pu feindre les gestes de la soumission. Ils n'ont pas pu. Ils ne sont pas de ceux qui s'agenouillent. Ils ne sont pas de ceux qui se taisent. Ils croient à l'existence de valeurs immatérielles. Ils croient à la vertu de la parole et de la revendication. Ils sont convaincus que c'est la sainte protestation contre le présent qui a fait sortir l'humanité des cavernes et ils veulent que l'humanité continue et qu'elle monte. Non, non. Il est impossible de ne pas les estimer. Eh bien, monsieur le ministre, je vous supplie de penser à eux. Je vous supplie de leur réserver un traitement à part qu'ils méritent, lequel, je ne sais pas, celui-ci par exemple. Lorsque vous laisserez entrer des étrangers, qu'ils soient les premiers. Lorsque vous serez obligé d'en faire partir, qu'ils restent, ou qu'en tout cas, ce soient les derniers. D'abord, ce sera justice. Il est bien juste qu'ils aient une patrie, eux aussi. Et la France, par tradition, n'est-elle pas la patrie de ceux qui n'en ont plus ? Ce sera généreux. Et la générosité n'est-elle pas la forme élégante de la justice ? Et enfin, ce sera politique. Dès à présent, au nom de ceux qui, là-bas, souffrent et espèrent, ils sont déjà chez nous des ambassadeurs de reconnaissance. Rentrez chez eux en hommes libres, ils seront les meilleurs agents de votre propagande. En surchargeant un peu, si peu, la France d'aujourd'hui, vous travaillerez, monsieur le ministre, pour la France de demain.
Messieurs, j'ai fini sans toilette, sans beaucoup d'ordre, j'ai laissé parler mon cœur. J'attends, monsieur le ministre, que vous donniez la parole aux vôtres. Merci.
Monsieur le ministre Landry.
Je réponds très volontiers à l'éloquent appel que vient de m'adresser monsieur Guernu. Dans toute la mesure de la latitude qui sera laissée à l'administration par les textes législatifs ou réglementaires, une bienveillance particulière sera accordée à ces étrangers que l'attachement à leurs convictions a obligés à venir chercher un asile sur notre terre hospitalière.
Merci, monsieur Landry.
La loi mise aux voix sera adoptée dans une apparente unanimité, communistes et socialistes s'abstenant. Après de longues hésitations au Sénat, elle sera promulguée l'été 1932. Les décrets d'application ne commenceront à paraître qu'à partir de la fin 1932. Les professions les plus acharnées à obtenir des quotas seront, comme le débat l'a déjà indiqué, la profession du spectacle et la profession de l'hôtellerie. On ajoutera les avocats et les médecins aussi, qui veulent écarter leurs collègues roumains, qui sont de surcroît juifs. Aucun décret ne sera signé dans la grande industrie métallurgique qui a besoin structurellement des étrangers. Et c'est seulement à partir de 1934-1935 que les mesures se durciront, provoquant entre autres le départ forcé des mines de nombreux Polonais. Ils avaient commencé à aimer la France, ils prendront le train. Quant au député Guernu, qui continuera son travail d'avocat pendant l'occupation, il mourra de chagrin d'avoir vu la République sombrer.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Codicille, puisque le milieu du spectacle est parmi les premiers concernés par la question du quota des étrangers, on ajoutera à cette restitution du débat de 1931 par les comédiens français une illustration cinématographique. 1934, un écrivain qui est considéré comme un arbitre de l'élégance française, Paul Morand, publie « France, la douce ». Ce livre est indisponible aujourd'hui, c'est un pamphlet d'une rare violence dirigée contre les producteurs étrangers qui œuvrent dans le cinéma de notre pays. Nous sommes un an après l'arrivée d'Hitler au pouvoir et les Juifs et autres apatrides allemands sont évidemment, selon Morand, les plus indésirables. 1939, Sacha Guitry fait preuve de beaucoup plus de retenue dans le film « Ils étaient neuf célibataires ». Le scénario est directement inspiré par l'affaire des décrets-lois qu'il défend avec cet air de ne dire que des choses plaisantes qui lui est propre. Le guide des films de la collection Bouquins classique explique « Le sujet du film est le mariage blanc, sujet d'actualité et d'éternité que le maître traite avec la virtuosité du désinvolte, à moins que ce ne soit le contraire. » Mais, à n'y bien regarder, on voit qu'on n'est pas dans un moment aimable de l'histoire de France. Un protagoniste lance par exemple cet avertissement.
Les enfants, va falloir déguerpir, oui. C'est comme ça que si vous voulez. On est gentil, mais on peut tout de même pas se laisser envahir.
Thomas, t'inquiète pas, c'est mignon.
Oh non ! Laissez-moi vous faire observer que vous ne vous contentez pas d'envahir la France. Maintenant, vous voulez essayer d'en chasser les Français.
Nous sommes peu de temps après l'afflux de réfugiés qu'a provoqué la défaite de la République espagnole et voici comment est présenté par Guitry un restaurant tenu par des exilés de l'autre côté des Pyrénées.
Venez, venez, et je peux vous donner une table des coins où vous serez très tranquille.
Patron, mon Dieu, que le garçon vous ressemble. Là.
C'est mon fils, monsieur.
Ah, voilà, ce n'est pas seulement votre garçon, c'est votre fils aussi.
Précisément. La caissière, elle est ma femme.
Elle est charmante.
Les cuisiniers, c'est mon beau-frère. Et les chasseurs, c'est mon neveu.
Ah, c'est tout ce que vous avez comme famille en France?
Pour le moment, c'est tout, oui.
Alors je comprends, en effet. Ça s'appelle au melon d'Espagne, il n'y a pas de melon, et en somme, il n'y a que vous autres qui soyez plus d'Espagne.
Exactement, monsieur.
Le coup est régulier.
Et pourquoi Sacha Guitry se retrouve-t-il dans ce restaurant pas très régulier, nommé vulgairement au melon d'Espagne? C'est qu'une femme interlope lui a fixé dans cet endroit un rendez-vous. C'est la comtesse roumaine Elvire Popescu qui se fait appeler Stachia Batavskaya.
En réalité, une femme entretenue par un Belge. Son séjour en France n'est pas très régulier non plus. En tout cas, dès que paraissent les décrets-lois sur le quota des travailleurs étrangers, la panique la saisit.
Demandez l'infrance, la liberté, dernière nouvelle. Le nouveau décret-loi concernant les étrangers qui résident en France.
Je suis dans un état de colère indescriptible.
Moi, je m'y intéressais, madame la comte.
Ne faites rien surtout. Demandez-moi plutôt, maître Renard, mon avoué.
Au téléphone?
Ah, bien sûr, au téléphone. Est-ce que vous pensez le demander par la radio?
Allô? Allô, maître Renard?
Allô? Allô, maître, c'est la comtesse Bocheskaya. Il faut absolument, maître, que je vous voie tout de suite. Oh, je viens d'apprendre une nouvelle affreuse, abominable, horrible. Jusqu'à quelle heure êtes-vous pris? 8 heures. Eh bien, dis-nous tous les deux dans un petit coin.
Je voudrais vous annoncer une horrible nouvelle que personne ne sait encore, que s'est décidé ce matin au Conseil des ministres. Un décret de loi qui concerne les étrangers. Figurez-vous, maître, qu'il s'agit d'un décret de loi dont je vous ai parlé.
Oui.
Qui concerne les étrangers. Mais alors, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire? Vous comprenez pourquoi je suis affolée?
Non, madame, n'agissez pas. Et si vraiment vous voulez rester en France, il n'y a pas deux solutions. Il n'y en a qu'une. Vous mariez avec un Français.
Mais vous êtes fou! Vous connaissez ma vie.
Mais oui, je sais très bien qu'un monsieur vous protège.
Et alors?
Eh bien, ce monsieur...
Eh bien, ce monsieur, il est marié. Et il est belge en plus.
Il est belge? Oui. Good for them.
Oh, je suis très en retard, cher.
D'où viens-tu, ma beauté?
Chez madame Goulubeuf, où j'ai dîné. Vous savez, il n'a pas été question d'autre chose que de ce nouveau décret-loi qui concerne les étrangers. Il avait là-bas de Turcs, des Grecs, des Bulgares et tous dans un état. Cher, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce décret?
Je pense que le gouvernement de la République a tout à fait raison d'agir comme il le fait.
Ah oui?
Oh, la France est littéralement envahie par tous les métèques de l'univers.
Et vous, cher, vous n'êtes pas étranger?
Moi, je suis belge, oui, en effet.
Et ça ne vous impressionne pas du tout, ce décret?
Tu veux rire, ma beauté. Ah, de telle mesure ne peut pas inquiéter les gens de mon espèce. Hein.
Ah.
Elle vise uniquement les personnes suspectes.
Dans Ils étaient 9 célibataires, le marivaudage prend peu à peu le dessus, mais c'est dans le cadre politique et l'atmosphère étouffante des décrets-lois que la comédie a été posée à dessein. C'était un contrepoint, retour au générique de notre dernière restitution de débat parlementaire de la saison.
Cette séance au théâtre du Vieux Colombier était réalisée avec les comédiens français. Michel Favori, Bruno Raffaelli, Stéphane Varupen, Benjamin Laverne, Sébastien Poudroux, Christophe Montenez et, dans la salle, Alexis Chevalier, Grégoire Roqueplot et l'ancien réalisateur de la Marche de l'Histoire, Jacques Sigal. Celle-ci était réalisée par Stéphane Ronxin avec Benjamin Perru, Adrien Gaza, Gilles Manet, la restitution du texte, était effectué par Isor Pisani-Ferry.